Bonsoir à tous et merci beaucoup de venir passer une heure en la compagnie d'Alain Mabankou, dont le roman « Demain, j'aurai 20 ans » vient de paraître aux éditions Gallimard. Un roman dans lequel la voix du petit Michel, un jeune homme qui est entre l'adolescence et encore l'enfance, raconte le Congo-Brazzaville des années 70, raconte l'apprentissage de l'amour, la marche du monde, la cruauté également, qui quelquefois frappe le monde des adultes, un roman tendre, naïf ou faussement naïf, devine-t-on par moment. Alain Mabankou, à quel moment dans votre parcours d'auteur s'est imposé l'envie ou le besoin d'écrire un roman d'enfance ?
Merci déjà de m'avoir invité ici. Toujours avec plaisir à Bordeaux. J'y étais l'année dernière, cette année encore. C'est un plaisir immense. Je pense que « Demain, j'aurai 20 ans » est un livre qui s'est imposé, en quelque sorte, à moi. Moi, je choisis jamais les sujets des romans. Je pense toujours que le roman ne devrait pas être un sujet. Quand on n'a rien à écrire, il vaut mieux se croiser les doigts et lire ceux qui écrivent. Mais les écrivains s'entêtent toujours à vouloir écrire, même quand ils n'ont rien à dire, ce qui fait que ben, lorsque vous les lisez, vous sentez que ah, les pauvres, ils n'avaient rien à dire, mais ils voient quand même la galère, il faut remplir les pages parce qu'il y a une rentrée littéraire. Donc il y a des embouteillages. Donc je n'ai pas voulu faire de l'embouteillage. Ce livre, je l'écrivais depuis des années. Je l'ai arrêté pour écrire d'autres livres. Je peux même dire que c'est l'un de mes livres qui ont vu naître d'autres livres. Il y a comme ça des choses qu'on est en train de faire. On sait que c'est des choses qui vont prendre du temps. Donc, il vaut mieux ne pas les précipiter. Donc, je l'écrivais doucement. J'écris 10 pages, je m'arrête. Au milieu, j'écris vers cassé, qui va plus vite. Tandis que celui-là, je sens que je suis en train de réveiller des choses, bousculer ce que Modiano appelle le vestiaire de l'enfance. Donc, il faut aller doucement. On ne sait jamais. C'est comme dans un terrain vague où il y a des mines antipersonnelles. Si vous marchez les yeux bandés, vous risquez d'avoir des pieds coupés. Donc, du coup, c'est un livre que j'écrivais doucement. Et je me suis rendu compte à la fin du livre qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont ici que j'avais lancés comme des esquisses dans les autres romans. Par exemple, je m'étonnais de voir par la suite que dans la plupart de mes romans, les personnages principaux étaient toujours des fils uniques, ce qui était mon propre cas. Mais je ne l'avais jamais dit clairement. Et là, en l'occurrence, on voit que l'un des problèmes du roman, c'est la situation d'un enfant d'une dizaine d'années qui est fils unique et qui est quand même responsable de près ou de loin du désespoir de sa maman. Et que peut-être la trame du roman va être de retrouver une clé, puisque la légende, l'imaginaire de notre société congolaise, c'est que quand on est fils unique, c'est qu'en naissant, on avait une clé, on avait fermé à double tour pour ne pas avoir des frères, parce qu'on ne va pas se distribuer les jouets au même moment. Une personne, ça va, mais deux, ça devient envahissant. Donc les fils uniques ont dû fermer à double tour le ventre de leur maman pour ne pas avoir de la concurrence déloyale. Donc du coup, ben, l'enfant se retrouve dans une responsabilité telle qu'on s'est dit, le problème, c'est cet enfant, donc il faut tout faire pour qu'il retrouve la clé, pour qu'on aille ouvrir le ventre de la mère et qu'on puisse libérer les autres enfants. Mais le problème, c'est que le petit, il ne sait même pas qu'est-ce qu'une clé ou quoi. Il faut qu'il la trouve, donc il va la chercher. Donc cela était notre imaginaire et peut-être le point de départ, c'était cela. Je me suis dit, bon, ma propre mère n'existe plus, elle est morte, mais elle n'a eu qu'un enfant. Et si j'étais le responsable de son désespoir ? Point d'interrogation. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je suis persuadé que certains éléments de notre vie, de notre enfance, contribuent à l'imaginaire. Si je suis peut-être aussi devenu écrivain, c'était peut-être pour avoir des frères sur le papier, à défaut de les avoir dans la réalité.
Sur la couverture, il y a écrit « roman ». Bien évidemment, quand on vous lit, on se pose la question de ce qu'il y a d'Alain Mabankou dans ce petit Michel. Vous nous avez donné un élément de réponse. Mais vraiment uniquement un roman? Vous avez des éléments, alors j'aime peu ce terme, mais autobiographique.
Mais le roman, c'est le roman a un sens large. Je ne peux pas imaginer de dire récit. Ça veut dire que j'aurais été comme peut-être un greffier, j'écoutais et puis je narrais. Il y a le travail après de l'écrivain qui va peindre les situations, qui va peut-être rajouter ici et là une couture qui va peut-être donner à l'habit un autre sentiment. Il y a le travail de l'écrivain, il y a la sensibilité de l'adulte, il y a des éléments qui relèvent peut-être même d'une autre sensibilité que je n'avais pas à l'époque. Donc ce n'était pas logique que je puisse laisser sans le titre roman, puisqu'à l'intérieur, quand même, il y a mon côté de la poésie que j'ai essayé de mettre, le côté de la mythologie congolaise qui se trouve à l'intérieur. Par exemple, une des scènes de mon père, qui était un danseur traditionnel et qui avait pour particularité, lorsque la danse était très endiablée, il quittait le sol d'au moins 5 cm.
Hein? C'est très impressionnant, voilà, quand on dit ça.
Il quittait le sol d'au moins 5 cm. Mais pour raconter cela, il est difficile de le faire. Comment faire pour que lorsque le lecteur va lire, le lecteur sente aussi qu'il est capable de faire ce que mon père appelait la lévitation, la danse de Muntutu, de Bembe. Ça, ça existait. Nous, on l'a vu. C'est-à-dire, il y avait une sorte de transe générale qui faisait que nous avions l'impression que nous étions ce que Quignard appelle des ombres errantes. Hein, c'est-à-dire, on était en l'air et quand le tam-tam s'arrêtait, tout le monde redescendait. Nous étions des gens sérieux. Tout cela, ça relève aussi bien. J'aurais pu intituler fable, mythologie, cosmogonie, magie. Tout est à l'intérieur. Or, le roman, c'est le seul genre littéraire qui peut avaler tous les autres genres littéraires. Dans le roman, on peut être poète, dans le roman, on peut faire de l'essai, dans le roman, on peut faire du théâtre, dans le roman, on peut faire de la fable, tout. Mais par contre, il n'est pas toujours évident de faire dans un essai le roman. L'essai va te demander des choses plus scientifiques et autres.
Mais d'ailleurs, on sent, Michel, toujours sur le fil entre la réalité et l'imaginaire, ce qui est constitutif de l'état d'enfance, mais qui vous sert aussi dans l'écriture.
Je crois que ça me sert aussi dans l'écriture. Et souvent, on m'avait dit, mais oui, mais comment se fait-il, à une dizaine d'années, l'enfant-là, il paraît connaître trop de choses ou savoir trop de choses. Mais j'ai dit, mais à contrario, est-ce qu'il faut infantiliser un enfant africain parce qu'il a une dizaine d'années? Je veux dire, en Europe, lorsque Mozart a commencé à jouer ces choses à un âge que tout le monde envierait, on ne s'est pas posé la question. De la même manière, quand Rimbaud a écrit ses poésies à un âge de tout petit, on ne s'est pas posé la question. On oubliait aussi le fait que à 10 ans, un enfant né dans un régime communiste était déjà quelqu'un qui avait reçu beaucoup de choses dans son crâne. Il entendait parler de Karl Marx, comme les autres entendent parler d'un match de football contre l'OM. Il entendait parler de Lénine, on entendait parler du matérialisme historique, on entendait parler de la superstructure, le capital, les prolétaires, les serfs, les chefs de terre. C'était des documents, pour nous, on avalait, un peu comme j'ai dit à la radio chrétienne tout à l'heure, nous étions comme des perroquets. Et un perroquet polyglotte, mais il ne comprend pas toutes les langues, mais il les prend, il les avale, il dit on ne sait jamais. On a dit, s'il s'est exprimé en peul, le perroquet parlera en peul. S'il s'exprimait en hindi, il s'exprimait en hindi. Et les enfants communistes étaient pareils. Il récitait les grands passages des poètes officiels russes, et puis il pouvait faire de la philosophie. Par voie de conséquence, il fallait laisser à cet enfant cette intelligence qui était presque artificielle. Parce que nous, le problème, c'était de faire comment retrouver ces vérités figées qu'on nous a mis dans le cerveau, les déconstruire, les décomposer, faire table rase, comme dirait Descartes, pour retrouver les éléments et comprendre le monde actuel. Donc j'ai joué avec cette naïveté. Et évidemment, ça demandait pour tout lecteur de fermer les yeux et de s'imaginer qu'on est tous des enfants.
Évidemment, dans la lecture, ça nous sert aussi, parce que c'est très drôle et en même temps, c'est très grave de constater comment Michel met à l'épreuve ce qu'on lui apprend. Mais lui, qui n'est pas un idéologue, c'est un enfant, constate que son tonton René, qui a les portraits d'Engels et de Marx dans son salon, et de Victor Hugo, mais ce portrait-là aura un avenir un peu plus malheureux que les autres, ne se comporte pas en communiste. Et il est très étonné de voir autant de richesses et des murs tout autour de la propriété de tonton René.
C'est le paradoxe même de la société africaine. Souvent, on nous la présente comme une société de partage de richesses, c'est-à-dire que mes biens appartiennent à tout le monde. Mais quand vous décortiquez la composition familiale africaine, le chef de famille n'est pas le père. J'ai également expliqué cela que un chef de famille en Afrique, au Congo, dans ces années 70-80, peut-être se pérennise, c'est l'oncle maternel qui est le chef de famille, c'est-à-dire le frère de sa mère. C'est donc c'est l'oncle qui est au destiné de tout et qui c'est lui qui décide qui va épouser qui, c'est lui qui prend les héritages, c'est pas les enfants comme chez vous ici. Donc c'est l'oncle qui prend d'abord l'héritage et donc le père, donc mon propre père, je ne peux pas prendre son héritage parce que ses biens appartiendront à ses neveux. Donc c'est une famille matriarcale. Ce qui fait que si on part de ce fait, ça veut dire que la société africaine était alors une société d'appropriation des biens. C'est-à-dire qu'on était focalisé sur le destin qu'auraient les biens que laisseraient les époux. Donc, à ce sujet, si on partait de la vérité, on dirait qu'on n'était pas loin de la société, des sociétés occidentales fondées sur l'article 504 du Code civil, qui est la propriété privée. En France, on s'est battu, en Europe, on s'est battu pour la propriété privée, c'est-à-dire c'est familial, ça reste dans la famille, on doit surveiller qui doit rentrer dans la famille, qui doit épouser qui, parce que notre château ne va pas quand même aller chez les voisins, c'est pas possible. Et la société, la mienne aussi était pareille, mais seulement ça se voyait pas. L'oncle était là. Si l'oncle est le chef de famille, c'est pour pérenniser les biens qui vont venir du côté maternel, puisque la famille africaine était matriarcale. Alors que si c'était du côté du père, c'est le scandale. Les biens vont aller dans une famille d'un monsieur qui est venu épouser d'autres mères, donc ça va aller de l'autre côté, il faut tout faire. Et ça, on l'explique jamais. On nous enveloppe d'une théorie presque communautaire de la société, alors qu'en la décortiquant, on se rend compte que nous étions des sociétés capitalistes, quoi qu'on en dise, et que la solidarité était une solidarité peut-être de voisinage, de parenté, de clan et d'ethnie. Mais lorsqu'arrivaient les partages de biens, c'était la guerre tribale.
En revanche, c'est le papa de Michel qui va l'ouvrir sur le monde. Mmh. Alors, on va parler de la littérature et la façon dont Michel découvre la littérature, mais il y a cette radio-cassette, et surtout la radio, et le petit Michel, avec son père, écoute Roger Guifoli, qui raconte les nouvelles du monde, et on a ce petit garçon qui va entendre parler d'Amin Dada, du Shah d'Iran, et qui, dans son imaginaire d'enfant, va retranscrire ça. Est-ce que ça a été compliqué de ramener des éléments du monde, des éléments politiques dont la complexité est importante, à une structure simple de l'imaginaire d'un enfant et de la compréhension d'un enfant?
C'était pas du tout pour moi difficile, puisque moi, c'est des choses que j'entendais tous les jours. Je revoyais l'image de mon père qui va allumer la radio et la voix de ce journaliste Roger Guifoli, de La Voix de l'Amérique, en français, qui est en train de donner les nouvelles du monde. Et puisque ma mère n'est pas allée à l'école, donc c'était pas son histoire, et moi j'étais dans une dizaine d'années, 11, 12 ans, et donc le père se retournait pour nous faire en quelque sorte l'explication de ce que la radio venait de dire. Mais c'était difficile. Par exemple, une scène que j'explique dans le livre, c'est la mort du général de Gaulle. Mm-hmm. Hein, donc, il arrive, mon père, tout fâché, voilà. Et on se demande qu'est-ce qui se passe, parce que le général de Gaulle, pour les Congolais, c'est le père spirituel. Hein, d'ailleurs, on ne l'appelle pas de Gaulle là-bas, on l'appelle de Gaulle. Hein, donc, de Gaulle, le général de Gaulle, c'est le père spirituel. En 1940, il est venu sur place. Brazzaville, c'était la capitale de la France libre, donc... comme j'avais dit la fois dernière à l'émission avec Marine Le Pen, je lui avais dit, vous étiez tous les Français des Congolais, puisque en 1940, Brazzaville, capitale de la France libre, Brazzaville étant le Congo, donc tous les Français étaient des Congolais. Donc du coup, résultat, il vient pour expliquer la mort de Gaulle. On ne comprenait pas qu'un président qui est mort soit enterré dans un coin qui s'appelait Colombey les deux églises. Alors ma mère qui dit, mais comment se fait-il qu'on peut, les Blancs enterrent désormais les gens dans les églises, et au lieu que ce soit une seule église, et il y a deux. Donc il y avait un étonnement de ma mère là-dessus. Et moi, j'ai gardé justement la teneur, la naïveté qui était celle de ma mère là-dessus, ou quand on nous expliquait aussi les histoires de Bokassa, qui aurait donné des diamants à Giscard, et le pauvre Giscard, entre guillemets, risque de ne plus être le président de la République. Conclusion du petit, tous les jours, il prie pour que Giscard soit réélu, parce qu'il n'a rien fait aux gens, et on lui a donné des cadeaux, il a le droit de prendre ses cadeaux. Pourquoi cette histoire de diamants, alors que Bokassa a tué plus de 300 000 personnes? Donc, qu'est-ce qui est grave pour le petit? Accepter les diamants de Bokassa, ou bien absoudre les crimes, par exemple, que Bokassa a fait sur le peuple centrafricain. Donc, le petit réfléchissait, se faisait l'analyse. Ils écoutent la radio, le père prend l'information, explique à la famille, le petit prend l'explication de son père et se l'explique à lui-même avec ses amis, comment ça se passe. Il explique où se trouve le chat d'Iran, qui est le chat d'Iran, pourquoi on le pourchasse. C'est aussi peut-être le monde vu par un enfant. On nous présente beaucoup l'enfant africain qui regarde la société africaine, mais on ne pensait jamais que nous, en Afrique, hein, on pouvait voir le monde. À la rigueur, on pouvait être des petits enfants avec des gros ventres ballonnés, jouant dans la vase du quartier et de temps en temps faisant des courses dans les décharges publiques des quartiers populaires. Mais non, on voulait savoir ce qui se passait en Europe parce qu'on avait un œil tourné vers l'autre. C'est pour ça le mot fondamental pour nous, c'était l'autre. Que fait l'autre? Que fait la France de l'autre côté? Que font les Américains? Que font les Chinois? Pourquoi les Vietnamiens ou bien les Cambodgiens et les autres font une guerre entre frères? C'était peut-être difficile pour moi de ramener ces informations, mais je pense que la dimension peut-être de la naïveté était nécessaire pour voir ces éléments.
Dans l'ouverture sur le monde de Michel, il y a cette chanson de Georges Brassens, mmh, et de cet arbre duquel il ne faut pas s'éloigner. Mmh. C'est étonnant comme cette chanson qu'il écoute très très souvent, qu'il rembobine parce qu'on est sur un radiocassette, vient entrer en résonance avec la façon dont Michel est touché par l'exil du chat d'Iran. Et il parle du cancer de l'exil parce qu'il le sait malade. Il dit voilà, il a le cancer de l'exil. Il y a déjà un sentiment de gravité chez cet enfant et de questionnement sur ce qu'on doit faire, ne pas faire, et comment rester soi-même et comment ne pas être dans un exil intérieur finalement. Mmh.
Mais Georges Brassens est arrivé dans notre maison africaine par le concours peut-être de l'histoire, sachant que le Congo-Brazzaville et la France, j'allais dire, sont des pays frères, même plus que frères, mais des pays parents, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu la colonisation, donc à côté de la culture africaine, nous avons eu la culture française. L'école était française, les programmes c'était les mêmes que ce qui se passait ici, les livres c'était les mêmes, on lisait les Balzac, les Zola, les Maupassant, les Victor Hugo, comme si on était en France. Nous devions imaginer, bien entendu, lorsque Victor Hugo parlait « Demain, dès l'aube, j'irai à la campagne », on devait imaginer votre campagne ici, comment elle était. Donc, Georges Brassens est arrivé parce que mon père travaillait dans un hôtel de Français qui s'appelle dans le livre aussi « Victory Palace » et qui existe toujours. Il était le réceptionniste. Les Français avaient cette habitude, quand ils arrivaient en Afrique, ils amenaient des livres qu'ils lisaient au soleil et puis ils les abandonnaient, puisqu'il faut qu'ils ramènent les masques en Europe, ils ne vont pas ramener les livres aussi. Donc il y avait cette... Ils nous ramènent les livres, nous on leur donne les masques et chacun content, d'accord. Ils posent leurs masques au salon, nous on pose les livres dans nos bibliothèques. Et mon père les ramenait dans l'espoir de lire ça quand il serait à la retraite. Mais je ne l'ai jamais vu les lire et c'est moi qui les lisais en cachette. Et un jour, un monsieur qui s'appelle Monsieur Montoire a trouvé que mon père avait été gentil pendant au moins une dizaine d'années. Chaque fois, il arrivait, même chambre, s'occupait des enfants. Bon, même dedans, il y a même mieux. Hein? Mon père s'occupait, pour ce français, des petites gazelles. Moi, je ne comprenais pas quand il est venu dire à ma mère, « Tu sais, Monsieur Montoire, il est gentil, même que c'est moi qui m'occupe des petites gazelles. » Donc, moi, je me disais, « Mais donc, à quel moment on lui amène les gazelles ?» Mais c'était, en fait, l'image que je ne voyais pas. Donc, s'occuper de tout. Et il lui donne la radiocassette, dans laquelle il y avait une seule cassette, l'album « Auprès de mon arbre » de Georges Brassens. C'est la première chanson, donc c'est celle qu'on écoutait chaque fois. Donc mon père arrive, il appuie, tout, on attend la voix de Georges Brassens s'élever. Et parfois quand ma mère s'énervait, parce qu'au bout d'un moment, ma mère dit « C'est quoi cette histoire, une musique, on ne danse même pas, il y a un blanc qui fait que parler avec une grosse voix, va écouter ça dehors. » Et mon père prenait le magnétophone, allait s'asseoir au pied du manguier avec moi et on écoutait. Et le chanteur, il pleurait un arbre. Au fond, le petit s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils ont, les Européens, à pleurer un arbre? Nous, on en a beaucoup, la forêt, il y a un problème. Et je me dis, il y a peut-être un message qui est caché derrière. Et c'est la première fois que j'avais entendu le mot latin « alter ego ». Sachant que alter ego est le symbole même de la connaissance de l'autre. On va vers l'autre, on s'ouvre à l'autre. Et lui, il était un peu chagriné en disant que c'était le seul ami qu'il avait, son alter ego, celui qui lui ressemblait. Et tout le long du livre, le petit, avec ses amis, se demande, mais c'est quoi alter ego? Est-ce que c'est écrit dans un patois des blancs pour cacher quelque chose? C'est la connaissance aussi du monde, mais aussi l'amour de la nature, dans le sens où on peut être réceptif à ce que les choses nous disent. Et que peut-être aussi que les Européens avaient la même cosmogonie que nous, une croyance que les choses ont une âme. Ça, c'est le fondement de la cosmogonie africaine. Derrière chaque chose, fût-elle inanimée, il y a une âme. Et peut-être que dans cette chanson « Auprès de mon arbre », c'est le symbolisme même de l'animisme européen qui a été peut-être banni ou réfuté par le christianisme. On a dit non, c'est Dieu qu'il faut adorer, pas les arbres. Donc ça correspondait à cela. Et du coup, Georges Brassens était devenu le compagnon de ce petit enfant. Et quand il ramènera sa petite copine à la maison pour lui dire « Viens écouter le fameux blanc qui pleure les arbres », on s'assoit et on appuie, on écoute et la fille veut danser. Et l'enfant, le petit dit « Non, on ne danse jamais avec ça, il faut écouter ». Voilà.
Celui qui va devenir l'alter ego de Michel et qui va aussi l'aider pas mal hein, dans sa conquête du cœur de la petite Caroline, c'est Arthur Rimbaud, qu'il trouve dans la bibliothèque, dont il y a un portrait dans la chambre de ses parents, et qui va devenir le confident, l'ami, la voix intérieure.
Oui, il va devenir la voix intérieure parce qu'il y avait aussi la conception que pour nous autres Africains, Arthur Rimbaud était le poète français le plus africain. Il a été en Égypte, la jambe coupée là-bas, en Afrique. Dans ses poèmes, il a utilisé le mot « nègre » sans avoir peur, alors que les autres, « Ah non, faut pas l'utiliser, les Africains vont... » Lui, il a utilisé, il a comparé ses ancêtres gaulois ayant la même virilité, l'instinct guerrier comme les Africains. Donc, il était plus proche de nous dans Une saison en enfer. Donc, du coup, puisque c'est l'un des livres qu'un Français avait ramené avec les San Antonio, il était tout petit, Une saison en enfer, et il était au-dessus avec le visage de Rimbaud, je ne sais pas, après on a trouvé une autre photo, mais celle qui était là, il était comme ça. Donc, du coup, c'était là que je voyais le visage d'un petit, d'un jeune homme blanc. Donc, je venais, chaque fois, j'avais l'impression que chaque fois que j'ai regardé la photo, qu'il regardait. Et donc, je venais regarder comme s'il y avait une confidence. Et par curiosité, bon, il fallait lire les trucs, et les mots, les vers qui étaient à l'intérieur. Et là, il y avait dans un poème un mot qui était « la main à plume ». Et la main à charrue, c'était les mots sur lesquels je m'arrêtais. Donc il disait la main à plume ne vaut bien la main à charrue. Bon, charrue, je comprenais puisque on était communiste, il y avait l'agriculture. Donc chaque fois mon oncle venait, il dit il faut que la terre revienne aux paysans, il faut la charrue, les trucs. Il avait toujours tendance à il faut pas mettre la charrue avant le but. Donc j'avais vu à peu près, mais la main à plume, là je ne comprenais rien. Puisque je dis la main à plume, donc on était arrivé à penser que c'était la fameuse main qui aurait des plumes pour venir s'envoler, prendre les enfants et les amener vers une saison en enfer. Donc il y avait cette idée de la peur de la main à plume qu'il y a de Rimbaud à l'intérieur, qui finalement m'a aidé à cette époque de ramener la petite amie pour venir dire on va aller voir Arthur et sa main à plume à l'intérieur de la maison. Voilà.
Caroline, elle fait partie, parce que c'est une petite fille, mais elle fait partie de cette galerie de personnages féminins qui est peut-être la plus importante dans votre œuvre. Il y a beaucoup de personnages masculins. Mmh. Et là, on a la petite Caroline, maman Pauline, maman Martine, Geneviève aussi, qui est la petite copine de l'oncle. C'est un portrait en mosaïque de la femme africaine que vous avez voulu faire ?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans ce livre. Peut-être aussi c'est ainsi. Lorsqu'on entre dans l'introspection d'une famille africaine, on se rend compte que, en fait, l'homme n'est qu'un petit coq qui, de temps en temps, fait cocorico à 6 heures du matin, mais derrière, c'est la femme qui est le réceptacle de la société. C'est la femme qui soutient la société africaine. L'homme gueule, la femme est directe, c'est ce qu'il y a à faire. Et donc, du coup, le petit Michel était entouré de plusieurs femmes. Hein, donc de toute façon, il est dans une famille polygamique, deux mères, plus les femmes des frères qui gravitent autour. Et finalement, ça a peut-être tranché aussi avec les livres précédents, dans le sens où c'était des personnes masculines qui étaient parfois dans un monde très masculin. Et la féminité aussi du livre vient peut-être parce que l'enfance est forcément liée à la féminité. C'est bizarre, qu'on soit homme ou femme, moi je vois toujours l'enfance du côté de la tendresse, du côté de l'émotion. C'est pas que les hommes n'aient pas de la tendresse et de l'émotion, mais j'ai plus l'impression que nous les hommes, on rate beaucoup notre enfance en s'imaginant avec de la barbe, alors qu'il faut d'abord vivre son enfance avant de l'avoir.
Alors Alain Mabocou, Demain j'aurai 20 ans est également disponible maintenant sous forme de CD. Vous m'avez dit 7 jours d'enregistrement, il y a 9 heures d'écoute. C'est un vrai bonheur que de vous écouter lire votre livre. Est-ce que vous acceptez de nous lire le premier chapitre de Demain j'aurai 20 ans,
bon,
s'il vous plaît.
Je vais essayer. Dans notre pays, un chef doit être chauve et avoir un gros ventre. Quand mon oncle n'est pas chauve et n'a pas de gros ventre, quand tu le vois, c'est pas tout de suite que tu peux savoir que lui, c'est un vrai chef, avec un gros bureau au centre-ville. Il est directeur administratif et financier. D'après maman Pauline, un directeur administratif et financier, c'est quelqu'un qui garde tout l'argent de la compagnie et c'est lui aussi qui dit « Toi, je t'embauche. Toi, je t'embauche pas. Toi, je vais te renvoyer dans ton village natal. » Tonton René travaille à la CFAO, la seule compagnie qui vend des voitures à Pointe-Noire. Il a un téléphone et une télévision chez lui. Maman Pauline pense que c'est trop cher pour rien, ces choses-là, que ça ne sert pas de les avoir, puisque avant, les gens vivaient mieux sans ça. Pourquoi mettre le téléphone à la maison alors qu'on peut aller téléphoner à la poste du Grand Marché ? Pourquoi la télévision ? Alors qu'on peut écouter les informations à la radio. En plus, les Libanais du Grand Marché vendent les radios à un prix qu'on peut discuter. On peut aussi payer en plusieurs fois si on est fonctionnaire ou si on est directeur administratif et financier, comme mon oncle. Souvent, je me dis que tonton René est plus fort que Dieu qu'on adore dans les prières le dimanche à l'église Saint-Jean Bosco. Dieu, on ne l'a jamais vu, mais on a peur de sa puissance comme s'il pouvait nous gronder ou nous frapper alors qu'il habite très loin, là où aucun Boeing n'arrivera jamais. Si on veut lui parler, il faut aller à l'église et c'est le prêtre qui va lui transmettre nos messages qu'il lira s'il a un peu de temps, car là-haut, il est débordé matin, midi et soir. Or, tonton René est contre l'église et il dit chaque fois à ma mère « La religion, c'est l'opium du peuple !» Maman Pauline m'a expliqué que si quelqu'un te traite opium du peuple, il faut que tu fasses la bagarre tout de suite, parce que c'est une insulte grave et que tonton René ne peut pas utiliser un mot très difficile comme opium juste pour rire. C'est depuis ce temps que lorsque je fais des bêtises, maman Pauline me traite opium du peuple. Moi-même, dans la cour de récréation, quand certains camarades m'embêtent trop, je les traite opium du peuple et on se bagarre à cause de ça. Merci.
Merci. Le langage des enfants peut être facilement bêtifiant. Mm-hmm. Vous avez un langage d'auteur, d'écrivain. Comment arriver à épurer la langue pour la rendre à la fois intelligible et pour qu'elle ait du fond sans être bêtifiante?
Mais je pense qu'il ne faut pas prendre les enfants pour des imbéciles. J'ai fait les deux. J'ai écrit un livre de jeunesse qui s'appelle « Ma seule étoile ». Album de jeunesse, j'ai écrit pour les adultes. Lorsque j'ai écrit, je me suis dit, il ne faut pas non plus faire écrire, oui, je vais faire pipi, je vais faire cela. Ça ne ressemble pas en tant que tel. Sachant que nous sommes dans un pays, le Congo-Brazzaville, qui est, dans les années 70-80 était le plus scolarisé de l'Afrique. 98% de scolarité. Quand vous n'emmeniez pas un enfant à l'école, la police se pointait à la maison et vous mettez les parents en prison. Donc c'était le pays le plus scolarisé. Même ceux qui ne sont pas allés à l'école, vous parlez le français avec le subjonctif imparfait. Alors ça aurait été une gageure que de chosifier la voix de l'enfant en disant il faut que je lui donne tel âge. Non, à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, nous, on apprenait la langue française à partir de 5-6 ans. C'est-à-dire que nous n'avions pas un passé d'enfants qui avaient pris les tics de langage de la langue française depuis le sein de la mère. C'est-à-dire, quand on apprend la langue française, nous, on l'apprend directement à l'écrit. C'est-à-dire, ça ne nous choquait pas que quelqu'un qui avait 9 ans utilise le subjonctif imparfait ou qu'il sache conjuguer, je ne sais pas, un temps de plus qui est parfait ou quelque chose dans ce genre. Parce que la langue que nous apprenions était directement une langue écrite et qu'il n'y avait pas un passé d'oralité de la langue française. Donc du coup, on s'est retrouvé à 15, 16, 17 ans, des gens qui s'exprimaient parfaitement. D'ailleurs, c'était le cas à cette époque parce que l'émulation, la réussite sociale dans ces sociétés africaines était la maîtrise parfaite de la langue française. Lorsque vous la maîtrisiez, vous avez les portes qui s'ouvraient parce que on avait tendance que vous avez maîtrisé aussi les arcanes de la société occidentale et que vous étiez à même de contrer toute domination étrangère qui venait. Donc pour nous, c'était une jeunesse joyeuse où la langue française était pour nous une belle promenade, où les récitations de Victor Hugo, on se mettait du matin jusqu'au soir à les réciter. Nous allions draguer les filles en récitant des longues pages d'Alfred de Musset je ne sais pas, de Chateaubriand. « Mon cœur à ta clarté s'enflamme, je sens des transports inconnus, douce lumière es-tu leur âme. » Donc il y a cette beauté de la langue qui était là, qu'on apprenait dès cet âge. Et quand nous sommes arrivés en France, à 20, 21 ans, parfois en rentrant, on était presque choqués de voir que parfois dans la rue, ce n'était plus la langue qu'on parlait. On était obligés d'harmoniser notre langue. Moi, quand je suis arrivé, j'ai fait une année à Nantes pour faire des études de droit. On disait, oui, mais vous parlez un vieux français, c'est trop ringard. Je ne voulais pas qu'on coupe les apocopes. Non, quand il disait rue, restaurant universitaire, moi je disais tout et que j'écrivais tout de long en large. Il n'y avait pas des abréviations, mais j'étais obligé de m'y faire parce qu'à la fin, je ressemblais à quelqu'un qui arrivait en été avec des habits d'hiver. Donc c'était différent pour la situation. Donc c'est cette jeunesse qui était là où la langue française était en quelque sorte une fête.
Et en tant qu'écrivain francophone, vous avez essayé de conserver dans votre œuvre cette maîtrise de la langue française que vous avez eue depuis enfant. Vous avez senti le besoin de vous adapter à une écriture, une langue française qui est pratiquée plutôt en France?
J'espère que j'ai gardé la virginité de cette langue qui est là. Pour le reste, moi, ce que je travaille dans la langue française, et je l'espère, c'est le rythme, la cadence, la façon d'agencer. Les mots sont les mêmes. Vous ouvrez les 701 romans de la rentrée, on a utilisé les mêmes mots. Mais on n'a pas dansé la même danse, comme dirait mon oncle. Hein. Chacun a sa manière de danser. Chacun a sa manière de discuter avec la langue française. La mienne est une discussion qui est placée sous le sens du rythme, de comment mettre la parole africaine dans la logique de la langue française, de comment bousculer même la syntaxe de la phrase pour en faire quelque chose de beau qui puisse enrichir cette langue et non la dépraver. C'est ça, en quelque sorte. C'est donner aussi aux autres qui étudient la langue française la multiplicité de la langue, la richesse de cette langue. La langue anglaise, c'est la même chose pour les écrivains de l'Inde, du Nigeria, qui viennent injecter le rythme à l'intérieur de cette langue. C'est ça la force de... En France, ce qu'il faut défendre, c'est cela. Faire de la langue française une langue tentaculaire, une langue riche par les imaginaires qu'apportent les écrivains qui ne sont pas nés forcément en France et qui n'ont pas eu le biberon avec des mots de leurs parents en langue française.
Ça reste compliqué quand même d'être un auteur francophone en France. On a ce côté très chauvin où on considère que la littérature québécoise qui est francophone, la littérature africaine qui est francophone, la littérature suisse qui est francophone, ne sont pas de véritables littératures françaises et que la française est la première. C'est difficile, quand on est auteur, de s'imposer.
Ah, je pense que ça a quand même changé, hein, parce que je ne pense pas...
Il y a peu d'auteurs québécois, par exemple, qui sont capables de citer les Français, alors qu'il y a une extraordinaire littérature francophone au Québec.
Ah oui, c'est aussi... la littérature aussi, c'est... Vous avez ce qu'on présente. Hein, il faut sortir parfois des canons qu'on nous a présentés. C'est toute la question aussi de la rentrée. Pourquoi la presse littéraire française ne parlerait pas d'une rentrée littéraire québécoise? Ça serait formidable. Parce qu'ils font leur rentrée littéraire là-bas. J'y vais souvent, j'ai mon meilleur ami, Dany Laferrière, qui habite là-bas. Ils ont leur classement, ils ont leurs grands auteurs. Bon, non, la France va prendre un ou deux, Régent Ducharme, je ne sais pas, un autre, qu'on vient publier chez Gallimard ou chez Grasset, et puis ça suffit, on a fait notre quota d'auteurs
québécois. C'est Victor Lévy-Beaulieu,
cette année, c'est Victor Vélois, voilà, ça suffit. Mais derrière, se trouvent les Stanley Payan, se trouvent les Rodney Saint-Éloi, se trouvent beaucoup les Vigneault, une littérature riche qui est de l'autre côté, qu'on ne voit pas forcément parce que, bon, peut-être que... on est perturbé déjà par la rentrée en France. Mais ça finira par venir. Moi, je reste persuadé qu'un texte qui est bon finira par être compris et saisi. Et en plus, les Québécois, ils n'ont pas à rougir. Ils font leur rentrée littéraire sans complexe. Moi, j'ai vu des auteurs qui ne sont pas publiés ici, qui publient en français là-bas et qui ont un doctorat de 100 000 exemplaires. Ce que certains jalouseraient ici.
Tout à fait.
Voilà, Dany Laferrière, avant d'être un auteur ici, il est parmi les 5 auteurs québécois qui sont là-bas, donc ouverts à toutes les portes, la même chose. Je vais dire qu'ils nous reçoivent. Je vais dire, quand je vais au Québec, là-bas, je suis reçu comme un auteur de littérature franco-africaine aussi. Je veux dire que ça dépend. C'est une grande nation de littérature avec une presse littéraire très forte, ce qui manque aux pays africains. La Belgique a sa presse littéraire, même si elle attend que la presse française puisse adouber. La Suisse aussi a sa presse littéraire. La plupart des grands pays francophones ont leur presse littéraire, ont leurs auteurs, ont leur rentrée littéraire. Mais les pays d'Afrique noire francophone, c'est le désert des tartares, comme disait Dino Buzzati. Il n'y a rien, c'est-à-dire qu'on est obligé de venir au centre. Il n'y a pas une rentrée littéraire en Afrique, il n'y a pas des structures de presse concrètes qui traitent de l'information littéraire sur place. Donc, c'est des questions qu'il faut poser pour faire aimer cette littérature aux Africains. Nous sommes obligés, avec les Fatou Diom, avec les Léonora Miano, les Wilfried Sondé, de monter au cœur de la France et de chercher à faire qu'on dise attention, il y a aussi dans nos pays des écrivains qui sont là, il faut aller les chercher, il faut les sortir du cœur des ténèbres.
Voilà. Est-ce que par exemple Gallimard envoie des livres au Congo-Brazzaville? Est-ce qu'il y a un marché pour eux là-bas? Comment ça se passe pour vous au Congo?
Il y a des librairies là-bas qui sont tenues par des Français qui sont là-bas. Évidemment, quand un livre est en format, grand format comme ça, il est évident que l'Africain qui l'achète, il a hypothéqué 3 mois de nourriture. Donc, il faut encore attendre que ça passe en poche, à gauche et à droite, pour qu'il puisse y avoir accès. Donc, il arrive que dans certaines actions, parfois, nous autres auteurs africains, on est obligé parfois d'offrir les livres comme ça, sachant que si je donne 100 livres dans un quartier, ça va circuler dans la moitié du pays. Donc c'est un peu le risque même de l'écriture que nous avons. L'avantage des poches maintenant, les livres en poche, c'est pour ça que je suis très heureux dès que ça passe vite en poche. Là, tout de suite, ils les ont, ils les achètent facilement. Et puis, on fait des actions avec les centres culturels français. Donc, dans les bibliothèques de prêt, au lieu d'avoir 2-3 livres, ils sont obligés d'avoir une cinquantaine pour bien approvisionner le quartier.
Alors, vous êtes également professeur de littérature francophone à l'Université de Los Angeles, le UCLA, si je le prononce bien. Qu'est-ce que vous faites lire à vos étudiants?
Oh, j'ai choisi, en général. Je mélange. C'est là que je peux mettre un auteur français dans la littérature francophone. Mon cours, c'est littérature francophone dans lequel il y a les Africains, il y a les Français, il y a les Québécois, il y a les Antillais, il y a les Belges et autres. Parce que je pense qu'il y a la grande littérature francophone dans laquelle se trouvent les pays qui parlent la langue française, dont la France, qui est quand même minoritaire par rapport à tout le reste du monde qui parle la langue française. 60 millions, je ne sais pas, d'âmes qui parlent français ici. En dehors, ils sont 360 millions et quelques, donc minoritaires. Hein. C'est que quand on mélange les pays francophones, les pays un peu de l'Asie qui en parlent, Suisse, Belgique, je ne parle même pas de certains pays qui viendraient peut-être des îles et ainsi de suite. Ça fait beaucoup de monde d'ailleurs qui parle. Donc quand je dis littérature francophone, c'est une littérature internationale, étendue sur 5 continents. Donc, c'est à la littérature française d'entrer, en quelque sorte, dans mon cours de littérature francophone. Si j'enseigne un livre, une thématique sur l'enfance que j'avais fait, eh bien, je vais mettre, par exemple, L'enfant noir du Guinéen Camara Lai. Je peux mettre aussi un roman comme, un des romans de Jules Renard sur l'enfance, ou de Jules Vallès, ou même Vipère au poing d'Hervé Bazin. Et puis, je mettrai un autre livre d'un auteur d'origine suisse ou quoi, le livre de ma mère, d'Albert Cohen, pour que l'Américain qui vient dans mon cours voit l'enfance selon la vision africaine, selon la vision occidentale ou suisse, ainsi de suite, et est une idée générale comment ceux qui s'expriment en français ont le rapport littéraire avec leur mère ou leur enfance.
Ici, ou dans le monde francophone, on lit beaucoup les auteurs américains qui sont traduits. Est-ce qu'il y a aussi un effet inverse? Est-ce que la littérature francophone est traduite en anglais? Est-ce que vous avez des auteurs francophones que vous allez trouver dans les librairies américaines à Santa Monica ou à Los Angeles?
Mais c'est même terrible, puisque la France traduit beaucoup de littérature venue de la langue anglaise, alors que dans l'autre sens, ça ne se fait pas, c'est du 0, quelque chose. C'est-à-dire que les Américains, parfois, ils sont étonnés. Même l'auteur le plus mineur de l'espace anglophone, dès qu'il est publié ici, ça y est. C'est-à-dire la France a l'art de flageller ses propres écrivains, les fouetter, et de célébrer ceux qui sont traduits. Parce que c'est plus facile, hein, voilà. On va un peu taper Olivier Adam, et puis on va frapper Houellebecq. Mais par contre, un tel qui vient de la littérature anglophone, c'est le grand. Donc c'est pour ça que quand on passe de l'autre côté, il n'y a pratiquement rien. Je sillonne les librairies. Les seules fois que j'ai vu les auteurs que je vois dans les librairies, j'avais vu Amin Malouf, j'avais vu Bernard-Henri Lévy quand il avait publié un livre. J'avais vu également Houellebecq, à l'époque celle qui avait publié... un livre sur Catherine Millet, oui. La vie sexuelle de Catherine M. Ça, je vous dis, c'est ça, la vitrine contemporaine de la littérature française là-bas. Donc, Catherine M., ben, ils n'ont pas... Vous prenez la liste des meilleures ventes ici, c'est pas eux qui sont là-bas dans les traductions. C'est-à-dire que la traduction est minime. Et même mieux, ils traduisent plus, maintenant en anglais, les auteurs issus des pays francophones. Un auteur comme Tierno Monenembo, toute l'œuvre est traduite en anglais. Ben Jeloun, toute l'œuvre est traduite en anglais. Regardez l'exemple type, c'est le Clésio qui quand même a vécu là-bas. C'est au prix Nobel. Comment s'appelle l'américaine qui a eu le Toni Morrison qui demande, je ne connaissais même pas ce monsieur. Alors qu'il a vécu là-bas, publié depuis longtemps, l'un des plus jeunes Renaudot, salué dans le monde entier, mais il était publié dans une presse universitaire, c'est-à-dire que les livres n'arrivaient même pas en librairie et on avait publié un ou deux livres. Même chose, si vous allez là-bas, Philippe Soler, je crois, un seul livre publié, alors que ici c'est une institution littéraire. Donc ça se pose des questions peut-être par rapport à la littérature française. Il faut peut-être leur mettre la pression dans le cadre de la réciprocité. Après tout, ils avaient fait des quotas sur la musique. C'est pas normal qu'on publie 40% de tout ce qui vient en anglais et qu'eux, ils soient 0,000% de publication. Voilà.
Une dernière question pour vous, Alain Mabankou, puisque vous nous avez parlé de la rentrée littéraire tout à l'heure. Quel livre vous retenez de cette rentrée littéraire? Je sais que vous l'avez fait sur votre blog.
Ah bon?
Vous nous faites partager quelques envies de lecture.
Bon, il est évident que j'ai pas... moi, je dis la vérité. Les journalistes, ils disent qu'ils ont lu 700 livres. Moi, je n'ai pas lu 700 livres. Je ne sais pas comment ils font, parce que 700 livres...
Ce sont des surhommes, les critiques littéraires, bien sûr.
Comment?
Ce sont des surhommes, les
critiques
littéraires,
oui, 700 livres. Même les libraires qui sont plutôt proches des livres et qui lisent beaucoup plus que les critiques, ils ne peuvent pas lire les 700. 700, ce n'est pas possible. Il y en a qu'on va lire plus tard. Voilà. Donc, grosso modo, si on élague un peu... Il y a à peu près une 100, pour ceux qui font le travail des critiques bien, ils ont lu 100-120 livres. Bon, même là, c'est pas mal, sur 700. Dans les 100-120 livres, ils vont écrémer un peu pour en parler de 50. Dans les 50, ils vont encore réécrémer pour en parler de 30, jusqu'à ce qu'on va parler des 5, 6 ou 7 qui vont courir pour les prix littéraires. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai lu les livres d'abord des amis qui me l'ont envoyé. Olivier Adam m'a envoyé son cœur régulier parce que c'est un ami. J'apprécie beaucoup son écriture. Je trouve parfois injustifiées les attaques qu'on lui fait, notamment une où Bekbédé disait « Oui, mais c'est la même falaise, sauf que cette fois-ci, c'est au Japon. » Donc, je n'ai pas trouvé cela juste. J'avais même envoyé, moi, à Bekbédé. J'ai dit « C'est toujours dangereux, un écrivain qui juge les autres parce qu'un jour, il faudra passer soi-même aussi. » Il faut laisser aux critiques le soin de critiquer les choses. Donc, j'ai bien aimé son cœur régulier, que j'avais même mis sur le blog. J'ai aussi aimé le livre de Virginie Despentes, Bye Bye Apocalypse Bébé, que j'ai trouvé gouailleuse, cette façon d'écrire un peu à l'arraché. On a l'impression que les tabous s'envolent à gauche et à droite. C'était le choix que j'avais reçu aussi. Puis, j'ai deux amis qui m'avaient envoyé aussi leurs livres, dont un, c'est une jeune fille qui s'appelle Stéphanie Hocher, la distribution des Lumières, que j'ai apprécié plus. Puis, un que j'aimerais bien soutenir, c'est un C'est un Algérien, il s'appelle Yahya Belaskri. Il publie dans une petite maison d'édition qui s'appelle Vent d'ailleurs. Son titre, ça sort le 23 septembre, le titre de son livre, c'est « Si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut ». Je pense que c'est un livre qui dépeint la société algérienne autrement. D'habitude, c'est une sorte de littérature d'engagement où il y a la leçon morale. Mais là, il scrute une petite famille à l'intérieur de laquelle on va sentir les éclats de la société algérienne. Et puis, c'est une écriture alerte, fluide, un petit livre d'une... ça fait à peu près 150, 160 pages. Mais c'est un bonheur de les lire. On ne s'ennuie pas, c'est beau. Voilà, si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut. Voilà, c'est aux éditions Vent d'ailleurs. Vous avez compris que je ferai tout pour le défendre. Moi-même, je vais prendre la plume. J'ai demandé aux journaux, donnez-moi de la place, il faut que je parle de ce livre. Ils ont dit, non, on n'a pas fini avec Houellebecq, vous n'allez pas nous fatiguer. Voilà.
Et dans cette rentrée littéraire, évidemment, Demain j'aurai 20 ans chez Gallimard par Alain Mabankou, également la version audio, Ma sœur étoile chez Seuil Jeunesse, et puis l'ensemble de votre œuvre qui est disponible sous nos pieds à la librairie Mola.
Ah bon ?
C'est oui. Voilà. Bon. Merci beaucoup Alain Mabankou d'avoir partagé ce moment.
Merci beaucoup.